il est dans ce réseau 2 mois après avoir écrit les pires ignominies dans le journal de Lyon. Il est dans ce réseau, et ce réseau qui doit contenir une quinzaine de personnes, ils tombent tous les uns après les autres à partir du moment où il arrive. Jacques Sas est le dernier arrêté. Encore une fois, je pars dans mes hypothèses, mais ce sont des hypothèses que je tiens profondément dans mon cœur. Donc voilà, je suis persuadé que Jacques Sas a dénoncé tout ce réseau de résistants. Je suis de parti pris, je m'en rends compte, tant pis. J'assume. Quand, pour obtenir sa pension, il produit des certificats médicaux. Mais si tout ce qu'il décrit comme problème qu'il a soi-disant eu à cause du temps qu'il a passé en Allemagne, si tout est vrai, on se demande comment il arrivait à lever le petit doigt ou à faire 1 mètre dans la rue. Enfin, c'est vraiment...
Alors donc, on a fatigue chronique, trouble du sommeil, cauchemar, hyper-émotivité, instabilité, lenteur digestive, accès de dépression, palpitation. Enfin, il y a une liste longue d'une page dans votre livre « Le printemps des monstres » de ces séquelles de retour de camp.
Tout ça pour avoir un peu d'argent, quoi. Quel cynisme, enfin... Bon, voilà, mais une chose est sûre, c'est que Jacques Sas, c'est un personnage complètement impénétrable. Presque tout dans sa vie, rien n'a de cohérence. Enfin, on a l'impression, vu d'ici, que, par exemple, sa femme, Marie-Madeleine, qu'il rencontre, était, elle, je pense, une vraie résistante. Enfin, elle n'a pas fait de la résistance, mais en tout cas, elle était vraiment contre les nazis. Ils passent leur vie ensemble. Tout ça est très, très incohérent, je trouve. Donc... C'est pour ça que j'ai du mal à voir une logique là-dedans, ou de voir. J'ai du mal à voir une sorte de préparation pour laisser un grand mystère. Moi, je vois juste un type qui a avancé en courbant la tête de manière un peu. Je le vois, et puis même, c'est pour ça que je me rends compte que je suis de mauvaise foi, je le sais. Même sa tête, quoi. Je ne supporte même pas sa tête. Il a une tête de sournois, de perfide, de gluant. Mais ça, on en a énormément parlé avec Stéphane. Et c'est marrant parce que ce sont des choses qui me reprochaient un peu à l'époque, très gentiment. Hein, mais il me disait, tu interprètes tout en fonction de ta thèse de départ. Et puis maintenant, il se retrouve un peu là-dedans, Stéphane. C'est-à-dire que lui n'a pas arrêté. Moi, ça me touche beaucoup qu'il continue comme ça. Il a conscience qu'il s'enfonce dans une sorte de gouffre et qu'il n'y a rien au fond du gouffre. Mais... À son tour, maintenant, c'est moi qui lui dis parfois qu'il interprète, qu'il désaxe certains faits ou indices qu'il trouve pour les décaler un peu, pour que ça rentre dans la ligne de sa thèse.
Cette thèse de Stéphane Troplin sur l'affaire Lucien Léger, c'est la théorie des réseaux. Réseau politique ou réseau d'espionnage souterrain qui rassemblerait Lucien Léger, Jacques Sas et Yves Taron, le père de la victime. Cette hypothèse des réseaux, personne n'y a jamais cru. Aujourd'hui, seul Stéphane Troplin continue de l'explorer en silence, risquant de s'enfoncer encore plus dans l'obscurité, l'imaginaire, la solitude et l'obsession.
Lucien Léger, il explique donc qu'il faisait partie de ces réseaux et qu'au cours d'une manifestation le 1er novembre 1961, place Maubert à Paris, une bombe a explosé sur le socle au pied de la statue d'Étienne Delay à l'époque, que c'est lui qui a placé l'explosif parce que ses acolytes, alors Molinaro ou Sas ou un autre, on ne sait pas bien, mais avait apporté cette bombe et se comptait la jeter sur les policiers. Lui n'était pas du tout d'accord, donc il leur a arraché des mains, il l'a déposé précipitamment contre le socle de la statue d'Étienne Delay où elle a explosé, cette petite bombe. Voilà les faits. Donc moi, j'essaie de trouver des photos et je tombe sur un fond photographique. Et me voilà sur un bureau avec une table lumineuse et tout un ensemble de négatifs parce que j'essaie de retrouver Lucien Léger. Voilà. Et je demande à la rue des archives de me faire des développements en positif. Et sur un des développements, là, je vois que la personne que je visais ressemble vraiment, vraiment beaucoup à Jacques Sas. Mais alors vraiment beaucoup. La photo a été prise juste après l'explosion. On voit la statue d'Étienne Dolley en premier plan. Des policiers qui forment un cordon avec derrière des badauds et parmi ces badauds, un personnage qui se hausse un peu des pieds. Jacques Salles, c'était pas très grand. Donc là, à partir de ce moment-là, je me dis, mais ok, les réseaux, c'est peut-être invraisemblable, mais n'empêche que là, il y a une manifestation, une bombe, Lucien Léger qui dit avoir pris part à cet événement. Et là, je vois quelqu'un qui ressemble quand même vraiment beaucoup à Jacques Salles. Et puis, là, un petit peu plus récemment, en mai 2025, j'ai obtenu l'autorisation de consulter les dernières archives, en tout cas que nous connaissons, sur cette affaire, Lucien Léger. Donc, ce sont les archives du commissaire de la rue. Donc de l'enquête que le commissaire de la rue a menée en révision, enfin pour ouvrir la possibilité à Lucien Léger d'obtenir la révision de son procès. C'est un dossier que j'ai examiné avec attention, j'ai passé quelques jours à Paris en mai dernier. Parmi les personnages que Lucien Léger cite, notamment un certain Émile Kozak, le commissaire de la rue a identifié plusieurs Kozaks. Aucun ne correspond à la description donnée par Lucien Léger, mais, ce qui est toujours un mais, parmi les noms, alors les noms sont tous indiqués sur une feuille de papier avec les renseignements qui leur sont liés, mais il y en a un seul pour lequel il y a une photo. Il s'appelle bien Kozak, mais c'est pas Émile, il se prénomme Joseph. Je vois la photo, elle me dit quelque chose, cette photo. Et donc, la photo de ce Joseph Kozak ressemble beaucoup au portrait robot réalisé par un témoin à l'époque qui déclare avoir vu Luc Taron, gare Saint-Lazare, le 26 mai. Luc Taron était en compagnie de cet homme, qui ressemble pas du tout à Lucien Léger, mais qui ressemble vraiment beaucoup à ce Joseph Kozak. J'envoie ça à Philippe Jaïnada. Il m'envoie une réponse assez vite. Il me dit, on peut pas dire que ce soit pas ressemblant. On peut pas dire le contraire.
C'était Jacques Salles, le réel et l'imaginaire. Un documentaire en deux parties de Jérôme Massella.
Et donc, je ne sais pas quoi en faire de ces éléments, parce qu'ils sont dans mes bras. J'ai fait un bouquin, je ne sais pas, est-ce qu'il faut que j'en fasse un second, j'en sais rien.
Première partie, les égarés.
C'est possible que Jacques Salles soit quelque part, je le dis avec un petit peu de grandiloquence, mais quelque part soit une certaine forme d'incarnation du mal. Peut-être collabo, menteur, faussaire, meurtrier d'enfants, pourquoi pas. Ou peut-être un pauvre type mythomane, il y a par exemple cette photo de la place Maubert, où je pense qu'il est là, je pense que c'est lui.
Avec Stéphane Troplin, Jean-Louis Ivani, Philippe Jaïnada. Le voleur de crime, l'affaire Léger, par Jean-Louis Ivani et Stéphane Troplin, est édité aux éditions du Ravin Bleu. Au printemps des monstres, de Philippe Jaïnada, est édité aux éditions Mial et Barreau. À suivre, la deuxième partie, le scénariste.
Et voilà, il y a ça qui me travaille toujours, parce que c'est possible. Il est possible que ce type qu'on voit sur la photographie soit Jacques Salles. Et il est possible que ça ne soit pas lui, que ce soit juste quelqu'un qui lui ressemble vraiment beaucoup. Voilà.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur HDR, la radio des Hauts-de-Rouen, 99.1 à Rouen, ou bien sur le site radiohdr.net. Et c'est l'heure des années de jazz. Les années de jazz, c'est le mercredi à 19h jusqu'à 20h, rediffusé le samedi qui suit de 18h à 19h. Nicolas Leborgne est à la mise en onde, Michel Jules est au micro.
Vous écoutez HDR 99.1.
Cette semaine, deuxième épisode de l'histoire de Sonny Rollins. Il y a de quoi dire. mais on a appris hier le décès de Areski Belkacem, qu'on appelle Areski tout simplement, le compagnon de Brigitte Fontaine qui a fait dans les années 70 ce formidable disque comme à la radio. Et là, je vous propose le brouillard. C'est Areski tout seul, mais Brigitte Fontaine est là présente.
La poussière et le hasard. Le soleil et le cafard. J'ai si peur de votre histoire. Il sera 6 heures du soir. Il sera 6 heures du soir. Vos visages seront noirs. La poussière et le hasard.
Vous écoutez HTR 99.1.
Après ce très court hommage à Areski Belkacem qui vient de décéder le 1er juin dernier, j'en arrive à Sonny Rollins qui nous a quittés le 25 mai dernier à 96 ans. Donc toute une émission entière consacrée à Sonny Rollins. Je commence par un enregistrement de Miles Davis en 1954 avec évidemment Sonny Rollins, mais il y avait également Horace Silver au piano, Persis à la contrebasse et Kenny Clark à la batterie. Et c'est un morceau de Sonny Rollins, Oléo. Le quintet de Miles Davis, ça se passait chez Rudy Van Gelder le 29 juin 1954. Thank you. après ce Hollywood de Sonny Rollins, on avance de 2 ans, 22 juin 1956, toujours chez Rudy Van Gelder. Sonny Rollins est avec son quartet cette fois-ci, avec Tommy Flanagan au piano, Doc Watkins à la contrebasse et Max Roach à la batterie. Valse haute de Sonny Rollins. plus tard, Max Roach monte un orchestre un peu similaire, plus Kenny Dorham à la trompette, mais il y a encore Sonny Rollins au saxophone, Ray Bryant au piano, George Moreau à la contrebasse et évidemment Max Roach à la batterie. C'est le premier album que Max Roach enregistre sous son nom à la suite du décès de son trompettiste et camarade de Clifford Brown. Et là, c'est Kenny Dorham qui remplace une composition de George Russell qui s'appelle Esthétique. Max Roach plus fort.